Je leur parlai des chevaux et de la femme avec le vieil homme. « Tu n'as pas l'air de t'être donné trop de mal pour lui rendre son chapeau. Pourquoi tu les voulais autant, ces chevaux ?» Max et Bella me regardèrent avec un air entendu. Mais que savaient-ils ? Ils savaient que j'avais été un petit prodige. Ils savaient que ma famille d'accueil m'avait offerte à Arthur Goldstein quand j'avais 6 ans et que ce dernier m'avait adoptée pour que je puisse devenir une élève résidente dans son école de musique. J'avais quitté une maison modeste près d'Ipswich, dans le Suffolk, pour m'installer dans une autre plus impressionnante à Richmond, près de Londres. Ils savaient, pour mon audition à la Royal Academy of Music, pour la bourse que j'avais obtenue, ils savaient pour les récompenses internationales et Carnegie Hall, les enregistrements de récitals et de concertos pour piano sous la direction des plus grands chefs d'orchestre, et plus récemment, évidemment, pour la salle dorée à Vienne. Ils savaient pour mes interprétations mémorables de Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Ravel, Schumann. Ils savaient que j'avais craqué, que je commettais des erreurs. Ils savaient que j'avais désormais 34 ans. Pas d'amant, pas d'enfant. Il n'y avait pas de tasse de café réconfortante perchée sur mon piano, pas de cuillère sur la soucoupe, de chien en arrière-plan, de fenêtre avec vue sur la rivière ou de compagnons préparant des pancakes en coulisses. Et ils savaient pour le fiasco du concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff 3 semaines plus tôt à Vienne et pour ma sortie de scène. Ce concerto, je l'avais déjà joué un nombre de fois incalculable. Ils savaient que je me rendais sur l'île grecque de Poros afin de donner des cours à un garçon de 13 ans. 3 cours avaient été planifiés. Nous étions convenus d'un tarif horaire payant liquide. Peut-être pensaient-ils que j'avais besoin qu'on me remonte le moral. Max et Bella annoncèrent qu'ils avaient une surprise pour moi. Ils avaient réservé une sortie en bateau avec leur ami, Vass, qui m'emmènerait pêcher des oursins avant ma première leçon. Bella avait l'air heureuse. Manifestement, être enveloppée dans son amour pour Max lui faisait croire qu'elle pouvait parler sans filtre. « Écoute, Elsa, on sait que tout ça, c'est aussi à cause d'Arthur. Non mais quel idiot, cet Arthur. On a bien compris que tu étais son inspiration, son enfant muse, voire, si on est honnête, son salut. Mais personne ne peut être à la hauteur d'une telle attente. C'est un petit homme, Elsa, qui a des complexes. » Elle avait fait durer le mot « complexe ». Qui n'en a pas quelques-uns ? Déjà, il porte un foulard de 3 mètres de long pour être sûr qu'on le remarque. « Oui, dis-je, c'est en partie pour ça que je l'aime. » Arthur m'avait écrit après ce concert fatidique. « J'ai eu l'impression que tu n'étais pas là quand tu es entrée sur scène. Où étais-tu, Elsa ? Loin. » J'avais perdu le fil sous la direction de M. L'orchestre était parti dans un sens, le piano dans un autre. Mes doigts avaient refusé de se plier à Rachmaninoff et j'avais commencé à jouer autre chose. Quand j'avais 6 ans, Arthur m'avait appris à détacher mon esprit de ce qui est ordinaire. Mais ce soir-là, apparemment, l'ordinaire m'avait traversé l'esprit. Max me demanda si c'était vrai qu'Arthur s'était installé en Sardaigne. Je répondis que oui. Il possédait une petite maison dans une ville connue pour ses melons, à 64 kilomètres de Cagliari. Il y passait ses vacances depuis des années, mais y vivait désormais à temps plein. Ils voulurent savoir pourquoi. Ils pensent qu'on peut aimer davantage dans le sud. Est-ce qu'Arthur a un amant ? Je ne sais pas. Ils avaient posé la question sur le ton de la blague, parce que Arthur avait 80 ans. Je n'avais jamais rien su de sa vie amoureuse. Je n'avais jamais vu Arthur avec un compagnon, même si je le soupçonnais d'avoir ses petits arrangements. Il avait 52 ans à mon adoption. Alors peut-être que les aspects les plus enflammés de sa libido étaient déjà apprivoisés. Par ailleurs, dit Bella, comme si elle avait dressé une liste de mystères à résoudre et que j'en faisais partie, « On ne comprend pas pourquoi tu enseignes à des enfants sans talent sortis de nulle part. »« Tu sais, Elsa, n'importe quel conservatoire t'embaucherait comme professeur émérite. Sois réaliste. » M'efforçant d'être réaliste d'une façon qui plairait à Bella, je dis « Oui, j'enseigne pour payer mon loyer et m'acheter des kebabs en attendant la fin de la pandémie. » C'était faux. J'avais assez d'économies pour tenir, mais à cet instant, je voulais abaisser la queue interrupteur pour éteindre toutes mes émotions. Si Arthur était mon professeur, il était aussi un genre de père. Le seul père que j'ai. Et je l'aimais démesurément. Quand j'étais petite, il s'asseyait toujours à côté de moi au piano. « Tu as les doigts endormis, s'écriait-il. À quoi ça sert d'enseigner à quelqu'un qui dort ?» Et pourtant mes doigts étaient vivants, tremblants. Je ne savais pas comment lui faire plaisir. Je n'avais aucun désir d'effrayer mes élèves. Bella se pencha au-dessus de la table et me déposa un baiser sur la joue. Nous nous connaissions depuis longtemps. Son ex-mari, Rajesh, avait suivi les cours d'Arthur un été pendant un mois. Nous avions 12 ans à l'époque et nous ne nous étions pas quittés depuis. En fait, j'avais même présenté Bella à Rajesh quand ils avaient 20 ans. Ils s'étaient mariés 3 ans plus tard, ce que sur le coup personne n'avait compris. Ils s'étaient séparés récemment et Bella avait posé ses valises chez Max à Athènes. Dans ce baiser, je sentais cette longue histoire et l'inquiétude de mon ami. Poser ses lèvres sur ma joue était potentiellement dangereux. J'avais perdu le compte des différentes vagues du virus. Les grands confinements avaient pris fin, mais tout le monde avait encore peur. « Elsa, dit Bella, s'il te plaît, oublie Rak et retrouve le sourire. » Sergueï Rachmaninov ne souriait jamais. Sa main gauche puissante, son visage sévère, sa tristesse oubliée dans la composition du concerto pour piano numéro 2. Peut-être aurait-il souri de nous entendre le surnommer Rak, comme s'il avait été un ami venu nous emprunter un chargeur de téléphone. J'écoutais ses grandes pensées musicales depuis l'âge de 15 ans. Pendant un temps, Arthur et moi n'avions travaillé que Rak et Tchaïkovski, parce que, ainsi qu'il me l'avait montré, Rachmaninov était amoureux de Tchaïkovski, même s'il était bien plus novateur d'un point de vue structurel. Habitant des siècles différents, Rak et moi étions devenus des solistes célèbres à un jeune âge, donnant des concerts dans toutes sortes de conservatoires. Je fis signe au serveur, remuai à peine les doigts, peut-être à la manière d'une diva. « Passons à autre chose, » proposai-je à mes compagnons. « Je vous offre un ouzo. Je dois rejoindre le Pirée. » Le serveur nous apporta nos boissons et chacun leva son verre sans trop savoir quoi dire. Quelqu'un avait peint les mots « mort »,« drogue »,« vie », »,« beauté » en lettres noires sous une voûte de jasmin qui semblait connaître une seconde floraison automnale. Je mis mon chapeau et je me sentis en communion avec la femme qui avait acheté les chevaux. « Je vais te retrouver, » lui dis-je dans ma tête. « En échange du chapeau, tu me donneras les chevaux. » Bella tourna la tête pour cacher je ne sais quelle expression qu'elle venait d'échanger avec Max. « Vraiment, je ne comprends pas, » dit-elle, « ce concert que tu as quitté en plein milieu. » Rak avait des mains de géant. Il y avait un intervalle de 12 touches entre son pouce et son petit doigt. « Cette amplitude ne m'avait jamais posé problème, » répondis-je. « Mais à cet instant, je pensais surtout aux ongles vernis à l'acrylique rose du top modèle en couverture du magazine de voyage dans l'avion pour Athènes. À mes yeux, sa main pâle avait ressemblé à celle d'un cadavre, la moindre ride et tache de rousseur effacée. Entre ses doigts mous, elle tenait le pied d'un verre à cocktail à moitié rempli d'un liquide rose assorti à ses ongles, un genre de liqueur. Apparemment, cette boisson faisait naître l'émotion. La publicité le disait, cette boisson faisait naître l'émotion. En parallèle, une mazurka mélancolique de Frédéric Chopin, l'opus 17 numéro 4, jouait dans ma tête. Bella me tapota l'épaule. « Si tu vois Rajesh à ton retour à Londres, dis-lui qu'il me doit 6 mois de notre emprunt. » Puis ce fut au tour de Max. « Bon, Elsa, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde veut que tu rejoues. C'est comme si tu t'étais auto-annulée. » J'ajustai le chapeau, l'inclinai vers l'avant. Un cœur d'oiseau m'accompagna alors que je descendais l'escalier du toit-terrasse vers la sortie.